transport des minerais dans le Katanga, la paralysie des activités de la Société nationale des chemins de fer du Congo pousse les entreprises minières à se tourner vers le transport routier. Pone Munanga.
Parmi ces entreprises qui avaient pourtant signé le partenariat avec la SNCC, il y a les géants Tenke Fugurume. Les coûts du transport par route, quoique plus cher, est le seul recours pour toutes les entreprises qui veulent produire. Ce sera le dossier de la semaine.
Dans le Bas-Congo, le constat est malheureux pour le secteur du bois congolais.
Les exportations ont chuté de moitié, a annoncé un responsable du bureau d'études et d'exploitation de l'ONATRA Bas-Congo. Et pour cause, la crise financière internationale. Moins des clients pour le bois congolais.
Ce sera le reportage que vous allez nous proposer dans une dizaine de minutes d'Irgénieur Pala.
Nous sentons très frappés parce que vous savez que nous nous dépendons de nos clients. Et aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que tous nos clients sont frappés à des degrés divers.
C'est Paul Chibanda, secrétaire général des Auto Transport Company, ATC en sigle, qui nous parle des effets de la crise mondiale sur le secteur auto en RDC. Il est l'entrepreneur de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous dans ces échos d'économie.
Infos économiques de la semaine.
C'est avec vous, Jocelyne Moussa, au fondé. D'abord, cette information, 195,5 millions de dollars américains pour la République démocratique du Congo.
C'est l'argent que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé en urgence et jeudi dans la soirée. Le versement se fera dans le cadre de la facilité de protection de pays pauvres contre la crise financière mondiale et le ralentissement économique depuis fin 2008. Cette cagnotte devra permettre de renflouer la réserve internationale de la Banque centrale du Congo pour stopper la dépréciation continue de la monnaie nationale. Au marché noir, le moins d'impôts s'échange ce week-end à 820 francs congolais pour un dollar américain contre 778 francs congolais en début de semaine.
L'argent encore, Jocelyne Moussaou, 7 millions de dollars américains seront débloqués pour les petites et moyennes entreprises congolaises.
C'est le représentant résident de la Société financière internationale, un projet de la Banque mondiale pour le secteur privé qu'il a annoncé ce week-end. Selon Amadou Labara, cette cagnotte sera placée dans une banque de la place à partir du 15 avril. Chaque PME peut emprunter jusqu'à 500 000 dollars américains, un emprunt qui se fera selon certains critères de viabilité de PME. Le responsable de la Société financière internationale a aussi annoncé un appui pour des grandes sociétés, mais son montant n'a pas été révélé à la presse.
Et l'on parle cette fois-ci du commerce pour la paix dans la région du Grand Lac africain.
Ce projet propose de supprimer les taxes douanières des marchandises à la sortie des frontières pour mettre fin à la fraude et encourager le petit commerçant à déclarer tous leurs biens, permettant ainsi à l'État de réajuster ses statistiques du commerce extérieur. Ce programme a été mis sur pied par la coopération britannique DFID, la coopération américaine USAID et le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA en 2006 pour renforcer les liens de population qui partagent les mêmes frontières. Il a été présenté en début de semaine au Grand Hôtel Kinshasa. Le programme prévoit tout de même des garde-fous. La valeur des marchandises devant traverser la frontière ne doit pas excéder 500 dollars américains.
Dans le Bas-Congo, Jocelyne, où est implantée la minoterie des Matadi, on manque du pain à Moanda.
De longues files d'attente ont été observées jeudi avant midi devant les boulangeries et lieux d'approvisionnement en farine de froment dans la cité de Moanda, située à plus de 200 km de Matadi, ont indiqué plusieurs sources sur place. Le pain s'est fait rare à cause du manque de farine de froment dans les dépôts de Moanda. Outre la rareté du pain, le prix de cet aliment a doublé. Il est passé de 200 à 400 francs congolais. Les revendeurs de farine de froment attribuent cette situation à l'état défectueux de la route Boma-Moanda qui empêche les opérateurs économiques d'emmener à temps réels leurs produits sur place. Un responsable de FEC Moanda a affirmé que plusieurs véhicules remplis de farine de froment devraient arriver vendredi soir dans la cité côtière.
Des experts du processus de Kimberley ont visité cette semaine la République démocratique du Congo.
Cette visite a pris fin ce samedi. Cette délégation d'une dizaine de personnes est en RDC depuis le 9 de ce mois, selon Léonid Moupépélé de CEC qui a accompagné la délégation à Kisangani en Mbujimayi. C'est une visite de revue qui se fait périodiquement. Elle consiste à constater si les engagements pris par le pays dans le cadre de ces processus sont respectés. L'évaluation sera publiée dans un document dans un délai de plus ou moins deux mois. Pendant son séjour, la délégation a visité les bureaux d'achat des diamants, les négociants, les sites d'extraction et les autorités et les services impliqués dans le processus de l'exploitation et des commercialisations du diamant.
Le dossier de la semaine.
Le transport des minerais dans le Katanga se fait actuellement par un grand camion appelé communément un trac. Jadis, ce transport était l'apanage de la seule société nationale du chemin de fer du Congo, SNCC. Mais avec les difficultés que cette société connaît actuellement, la quasi-totalité d'entreprises minières du Katanga ont opté pour le transport routier qui, selon eux, est rapide, même s'il coûte un peu plus cher que pareil. La réhabilitation de la SNCC et l'acquisition des outils de production de cette société rendraient plus compétitif le coût du transport des minerais par train. Tout cela est l'objet du dossier sur lequel vous vous êtes penché cette semaine, Paulin Munanga. Alors Paulin, dites-nous d'abord comment le transport des minerais était-il jadis organisé dans le Katanga?
Oui, Nazer, et à la création de l'Union minière du Katanga, UMHK en sigle, il était convenu que la SNCC, BTK à l'époque, devrait procéder au transport des minerais de cette entreprise. Au fur et à mesure que la société commençait à connaître des difficultés, et avec les booms miniers au Katanga, la SNCC s'est retrouvée dans l'incapacité d'assurer les transports des minerais. Cela a poussé les entreprises minières, appelées communément ici le mining, à chercher d'autres moyens de transport plus sûrs et moins coûteux, donc les transports routiers.
Comment alors ce transport routier est-il organisé?
De nombreuses entreprises minières au Katanga détiennent leurs propres camions et d'autres qui peuvent être estimées à une trentaine se sont spécialisées dans les transports des minerais. Ces entreprises possèdent jusqu'à des centaines de camions pour ce faire. Certains responsables d'entreprises de transport des minerais se sont réservés à donner leur avis à ce sujet au micro de Radio Capi.
Et comment alors les clients apprécient-ils ce mot de transport par route?
Selon ces clients, lorsque la SNCC gardait le monopole des transports des minerais, ils avaient toute la misère du monde à voir leurs marchandises arriver à destination, et surtout dans les temps. Et contrairement aux habitudes, ailleurs, affirme-t-il, le coût du transport par route est de loin meilleur par rapport au transport par voie ferrée. Selon les directeurs d'exploitation de la SNCC, la tonne des minerais par rail coûte environ 195 dollars américains, mais par route, elle a près de 100 dollars américains, sans compter toutes les taxes qui interviennent. Mais il faut noter que le rail offre un transport d'une grande quantité de produits en un seul coup sur une longue distance par rapport à la route.
Et qui est déjà alors dans ce cas la SNCC qui a été créée pour le transport des minerais en partie?
Selon les directeurs d'exploitation de la SNCC, son entreprise conserve le partenariat avec trois entreprises minières dont Tenke Fungurume Mining, KOL et groupe Bazano. Mais sur terrain, l'exportation est au ralenti. Des wagons chargés de minerais et entrants appartenant notamment aux trois entreprises citées ci-haut sont immobilisés dans certaines gares du Katanga à cause notamment de la grève, ce que reconnaît aussi Marc Manyanga.
Nous avons des produits à l'exportation au niveau de Kinsenda. Nous avons des produits au niveau de l'huilou. Nous ne sommes pas en mesure d'assurer le bon fonctionnement de la production au départ de l'huilou parce qu'il y a beaucoup d'acides et d'autres intrants qui sont bloqués au niveau de Lubumbashi.
Et que dire alors de la Gécamine qui était le plus grand partenaire de la SNCC?
Oui, la Gécamine a été contrainte d'acquérir ses propres wagons pour le transport de ses minerais. Et la SNCC a reconnu cela et nous a confirmé que lorsqu'un client apporte son matériel, il bénéficie d'une ristourne variant entre 10 et 15%. Selon le PDG de la Gécamine, l'achat des wagons s'explique par le fait que son partenaire d'antan, qui est la SNCC, n'est plus à mesure de remplir sa tâche. On écoute Paul Fortin.
Nous devons suppléer quelquefois aux difficultés, aux carences de nos partenaires traditionnels. Dans ce cas-ci, le partenaire avait beaucoup de difficultés à répondre aux besoins de la Gécamine. Donc, plutôt que d'interrompre les opérations, plutôt que de nous mettre en situation de difficulté, nous avons préféré passer de l'avant, tout comme la Gécamine a loué des locomotives. Mais c'est pas par gaieté de cœur que je fais ça, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de locomotive SNCC, donc il fallait bien que je trouve des locomotives.
Et comment réagit la SNCC?
Évidemment, ils sont sans doute très chagrinés, mais comme ils ne peuvent pas donner le service, ils ne peuvent pas me reprocher d'aller chercher ailleurs. Mais du jour où ils seront en mesure d'offrir le service, un service qui est fiable et qui est constant, je serai très heureux d'être avec la société comme c'était dans le passé.
Et dans ce cas, Paulin Munanga, quelles sont alors les conséquences pour la SNCC qui ne peut plus honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires?
Oui, la plus importante conséquence émane de l'entreprise TFM Tenke Fungurme Mining qui s'est finalement décidé de retirer un important lot de ses cargaisons qui traînent dans la gare de la SNCC pour les transporter finalement par route. Confirmation du directeur d'exploitation de la SNCC.
TFM qui pourrait constituer notre point d'ancrage pour nos prestations futures. Un programme d'évacuation avait été établi pour que tous les intrants puissent arriver au niveau de Fungurume avant le 9 mars. Et effectivement, au niveau de la SNCC, on a fait arriver ces intrants jusqu'à Lubumbashi. Tant que Fungurume, pour ne pas connaître un retard, il est en train de décharger une partie de ces intrants au niveau de la gare de Lubumbashi pour respecter son programme de production afin de les charger dans les tracts. Cela est quand même assez malheureux pour la SNCC. Nous avons plus ou moins une centaine de wagons qui sont bloqués comme ça. Si nous considérons la distance taxable, c'est-à-dire celle qui rapporte l'argent à l'entreprise, c'est plus ou moins 463 km. Alors lorsqu'on doit décharger des marchandises au niveau de Lubumbashi, donc ça fait au moins 208 km que nous perdons sur les recettes. Donc le fait qu'ils déchargent leurs wagons à Lubumbashi parce que nous sommes bloqués de part de Likasi, nous risquons de perdre même des clients parce que nous n'aurons pas représenté l'élément de confiance qu'il attendait de nous.
Alors on comprend, le manque à gagner doit être très très important. Quelle est finalement la réaction de l'État congolais par rapport à cette situation?
Le directeur de cabinet du ministre provincial du transport et infrastructure au Katanga reconnaît que cette prérogative était reconnue jadis à la SNCC. Mais Laurent Kaozi ajoute que les difficultés que connaissent cette société ont poussé les opérateurs miniers à opter pour les transports par véhicule. Le directeur de cabinet précise qu'il n'y a aucune loi dans notre pays qui interdit le transport des minéraux par route. Même le code minier est clair à ce sujet, précise-t-il. On l'écoute.
De tout le temps, le transport, surtout le transport minier, le transport de matières lourdes, a été effectué par la Société nationale des chemins de fer. C'est à la suite de cette perte de performance que le transport routier a pris de l'ampleur au point de s'imposer sur le transport ferroviaire. Je pense qu'il faut souligner que le transport routier dans notre pays est libéralisé. Il n'est pas interdit à un citoyen, à un opérateur qui désire créer une société de transport de prendre cette initiative. Il n'y a aucune loi qui interdit que le transport par route soit opéré par un privé.
Alors, quelle est finalement la solution pour la SNCC qui perd désormais ses clients?
Il faut dire que pour que la SNCC soit compétitive, il faudrait la matérialisation du plan de la restructuration. Cela implique d'abord de résoudre la crise actuelle entre les employés et l'État. Ensuite, réaliser le plan de stabilisation grâce à l'appui des institutions de Bretton Woods de l'ordre de 180 millions de dollars américains. Ainsi, le coût de transport par voie ferrée qui est le plus élevé dans la région sera compétitif, même au coût de transport par route.
Ah, merci beaucoup, Paulin.
Merci, Nader.
Les infos économiques en Afrique et dans le monde.
Et l'on vous retrouve, Jocelyne Moussa-Pondé, dans l'actualité économique internationale. L'Afrique a besoin des actions urgentes pour faire face à la crise mondiale.
C'est ce qui ressort de la conférence de Dar es Salaam cette semaine. Le ministre des Finances et gouverneur des banques centrales des pays africains réfléchissaient sur les moyens de contrer la crise. Ils ont demandé à la communauté internationale d'augmenter le flux d'aide de manière significative.
Et à propos de cette crise financière, avant le sommet des chefs d'État du 2 avril à Londres, les ministres des Finances du G20 se sont réunis.
Une divergence apparaît entre Américains, Européens et Asiatiques pour la sortie de la crise. Chacun s'appuie au départ sur son précaré national avec des situations économiques, bancaires et politiques différentes. Les États-Unis insistent sur la nécessité d'une relance forte, rapide et coordonnée. Les Britanniques, eux, sont soucieux de la relance, mais un peu moins que les Américains. Leur priorité absolue, c'est la sauvegarde de leur système bancaire qui fait face à des difficultés d'une ampleur considérable. Pour la plupart des pays de l'Europe continentale, l'urgence est l'élaboration des règles, le rappel de la discipline et les éventuelles sanctions à travers une nouvelle architecture du système financier. Les pays émergents veulent être davantage présents dans les institutions financières internationales. Enfin, les Chinois sont plutôt en position d'arbitre car ils disposent des liquidités.
Merci, Jocelyne Moussaou.
Merci.
Le reportage de la semaine.
À Matadi, dans le Bas-Congo, les exportations du bois ont fortement baissé. C'est un responsable du bureau d'études et d'exploitation de l'ONATRA Bas-Congo qui l'a indiqué. De 15 000 tonnes d'agrumes par mois en 2008, on est passé en 2009 à 7 000 tonnes par mois, soit une baisse de 50%. La crise financière internationale s'est installée dans le secteur du bois congolais. Roger Nyampala.
La baisse des exportations des grumes a commencé au mois d'août de l'année passée, a précisé Matundu Seke, responsable au bureau d'études et d'exploitation au port international de Matadi. Pendant cette période, ces exportations avaient quitté la barre de 15 000 tonnes pour atteindre 7 000 tonnes par mois. La baisse du prix du bois sur les marchés internationaux, la décision prise l'année dernière par le gouvernement demandant aux opérateurs économiques de régulariser leurs dossiers en matière d'exploitation du bois et l'annulation de certains contrats forestiers seraient les causes de cette situation, ont indiqué plusieurs sources. Matundu Seke, responsable du bureau d'études et d'exploitation au port international de Matadi, parle des conséquences néfastes pour le port.
Les conséquences sont tellement néfastes parce que l'ONATRA a laissé le devoir. Son seul devoir est de rendre ses services. Et quand il y a baisse dans les transports, il y a aussi baisse, il y a les retombées sur les réalisations tant financières que maritimes. Pour les ports, maintenant nous avons difficile d'accepter normalement le crimes au port. Tous les espaces que nous avons attribués aux exportateurs de crimes sont saturés. À tel enseigne que nous sera difficile d'accepter les conteneurs au port. Pas que ça ne parle pas.
Pour lui, la Fédération des entreprises du Congo doit prendre ses responsabilités.
La FEC, c'est celui qui représente les opérateurs économiques auprès de l'État. La FEC qui ne doit pas prendre le taureau sur les cornes pour détourner en fait cette marque à gagner.
Comme voie de sortie, l'association de déclarants en douane du Congo estime qu'il faudrait que l'État puisse alléger les mesures fiscales d'une part et d'autre part que les importateurs du bois régularisent leur situation vis-à-vis de l'État. Roger Boningaba, vice-président des déclarants en douane du Congo.
Il faut d'abord un allègement des mesures fiscales au niveau du gouvernement. Il doit y avoir aussi une incitation, c'est-à-dire que ces mesures doivent être incitatives pour permettre aux opérateurs du secteur d'envoyer suffisamment, selon leur volonté, d'exporter suffisamment. Il y a aussi le fait qu'il faut absolument que les exportateurs aussi fassent des efforts pour régler la situation.
Enfin, certains observateurs pensent que le manque à gagner dû à la baisse des exportations du bois au port de Matadi peut être compensé par l'importation d'autres produits comme le ciment, dont l'importation a été libéralisée. Matadi, Jirozi Nyampala, Écho d'économie.
Matière première.
Exploiter conjointement le pétrole dans le lac Albert, c'est ainsi qu'en ont décidé les présidents de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda le 4 mars dernier. Les sommets qui marquaient cette rencontre entre les deux présidents s'étaient tenus entre Kassindi et Kasese, deux villages situés le long de leurs frontières communes. Comment doit se faire cette exploitation commune? Quelles sont les sociétés qui ont déjà gagné ce marché d'exploitation et d'exploration dans le lac Albert? Chronique matière première avec Jean-Paul Bassila.
Les deux parties ont de nouveau convenu sur le principe d'exploitation commune, cependant il reste à définir la zone d'intérêt commun. Cette zone ne sera définie qu'à l'issue du processus de règlement des litiges frontaliers entre l'Ouganda et la RDC dans le lac Albert. Sur les côtes ougandaises de ces lacs, les compagnies Tullo et Heritage Oil, respectivement à capitaux irlandais, britanniques et canadiens, produiront leur premier baril à la fin de cette année 2009 après plus de 5 ans d'exploration suivie des forages. La même compagnie dispose depuis 2005 d'un accord de partage des productions signé avec le gouvernement congolais pour l'exploitation des blocs 1 et 2 du gisement pétrolier dans les lacs Albert. Depuis 2007, Kinshasa se rétracte, leur refusant le privilège de détenir les monopoles dans le lac. Selon le ministre congolais des hydrocarbures, Rémi Sekemanga-Keka, les deux blocs pétroliers congolais du lac Albert égorgeraient à eux seuls une réserve estimée à environ 3 milliards de barils. Le même ministre reconnaît tout de même que son pays a perdu trop de temps dans le querelle entretenue par la classe politique sur les choix des compagnies qui doivent s'occuper du pétrole dans le lac du côté congolais. Bounia, Jean-Paul Bassila, Écho de l'économie.
Vos avis et suggestions nous intéressent. Écrivez-nous à echo@radiocapi.net.
Crise financière et secteur de l'automobile en RDC, qu'en est-il exactement? La République démocratique du Congo ne dispose pas d'usine de production de véhicules, mais constitue bien un marché pour les voitures et véhicules neufs ou de seconde main venus de l'étranger. Concessionnaire de vente des véhicules et vendeur des véhicules d'occasion se livre parfois à une rude concurrence pour se tailler une place dans un marché dont le pouvoir d'achat des clients ne cesse de s'effriter. ATC Auto Transport Company, une société concessionnaire dans la vente des véhicules, a traduit en justice cette semaine ses concurrentes qu'elle accuse de l'avoir espionnée. ATC détenue en grande partie par la société belge Dementex et à 1 ou 2% par des actionnaires congolais, vend des véhicules Toyota, Nissan et Zoé. Paul Chibanda, secrétaire général de ces sociétés, est donc l'entrepreneur de la semaine. D'abord, cette question, Paul, est-ce que vous êtes vous aussi touché par la crise financière internationale?
Oui, nous sentons très frappés parce que vous savez que nous, nous dépendons de nos clients. Et aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que tous nos clients sont frappés à des degrés divers.
Des sociétés ou des individus?
C'est tout le monde. Nous vendons aux services de l'État, nous vendons aux particuliers, nous vendons aux sociétés, nous vendons à tout le monde.
Donc, il y a une chute des ventes.
Oui, il y a une chute. C'est encore trop tôt d'évaluer dans quelle proportion. Vous savez que nous venons de passer le mois de janvier et le mois de février. Généralement, ces mois sont difficiles. Il faut attendre de faire au moins un trimestre pour évaluer exactement les conséquences réelles de la crise sur l'évolution de notre chiffre.
Vous avez affirmé avoir été espionné par vos concurrents, mais vous avez aussi un autre phénomène qu'on retrouve, la vente des véhicules d'occasion. Comment vous évaluez cette concurrence?
Oui, la vente de véhicules d'occasion représente effectivement une menace pour nous, pour nos ventes en nous, particulièrement en Afrique, où le pouvoir d'achat de nos clients est très faible. Le pouvoir d'achat ne permet pas de venir acheter un véhicule neuf. Alors, on se rabat sur les véhicules d'occasion. Effectivement, pour le secteur automobile, les véhicules d'occasion représentent une menace.
Alors, sous des pressions, on se rend compte que les véhicules sont offerts ou bien achetés par crédit. Est-ce que vous avez tenté le système?
Nous essayons, dans la majorité des cas, de ne pas livrer à crédit. Parce que nous estimons que quand les consommateurs vont au marché pour s'acheter la nourriture, ils payent toujours cash. Et nous disons toute chose égale par ailleurs que nos véhicules ressemblent en tant que marchandises à d'autres marchandises qui sont vendues au marché, nourriture, chemise et tout ça, que les clients vont payer cash. Et nous estimons que nos clients aussi doivent payer cash parce que ce n'est pas nous qui devons financer les véhicules de nos clients. Et vous savez, pour amener un véhicule ici au Congo, quelle gymnastique on fait, hein? Ça part du Japon, ça passe par la Belgique, ça arrive chez nous au Congo, avec toutes les formalités de dédouanement, ça coûte énorme. Et si vous commencez à donner à crédit, avec le risque que ça représente que les gens ne puissent pas rembourser ces crédits-là, vous allez tout droit vers la faillite. Mais il existe des mécanismes où les clients peuvent se faire financer par les banques, suivant les modalités qui sont définies.
C'est là donc est bien réel, il faudrait déjà des clients qui ont acheté comme ça en passant par les banques?
Oui, beaucoup, oui.
Du coût de la production, prix des régions, prix des ventes au Congo, quelle est l'échelle des valeurs à peu près?
Je ne vais pas dévoiler de secrets, c'est pour ça qu'il y a l'espionnage industriel. Là, vous touchez à la question des marges bénéficiaires. Avec votre permission, on ne va pas en parler.
Une petite, par exemple, Nissan, je dis 4x4, raison à combien?
Par exemple, la G98, les hard body, c'est des doubles cabines avec la partie arrière non couverte. Vous êtes dans les 28 000 $, par exemple, en moyenne. Ouais. Allez, vous prenez quoi? Une Prado?
Que plus que c'est laquelle?
C'est ça, bon, c'est 48 000, comme ça. Oui, si vous prenez la patronne, bon, 52 000, voilà,
en gros, c'est ça les prix. Ça, on débourse cash comme ça, du coup, ou bien on peut payer par tranche aussi.
Non, on les paye cash. On les paye cash.
On paye par tranche jusqu'à ce qu'on libère, c'est fini. À ce moment-là, on peut prendre.
Oui, si quelqu'un veut verser des attentes, attendre que tous les prix soient payés pour se faire livrer, c'est possible. Oui. Mais ça, ce n'est pas une vente à crédit.
Oui.
C'est de versement échelonné. Et à la fin du versement total, on livre.
ATC, concessionnaire, par rapport au client, quel avantage accorde-t-il au client par rapport à d'autres concessionnaires qui évoluent au pays?
Non, je crois que chaque société a sa politique. Hein. Moi, je ne sais pas quel type d'avantage mes concurrents donnent à leurs clients. J'ai mes conditions que j'offre à mes clients, on les discute, on se met d'accord. Je ne m'intéresse pas beaucoup de savoir ce que les autres font.
Et perspective l'avenir pour vous en tant que concessionnaire ici en RDC de vente de véhicules?
Moi, quand je pars de l'effort, des efforts qui sont fournis par le gouvernement congolais, d'améliorer l'état des routes, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, j'ai grand espoir que je pourrai continuer, qu'ATC pourra continuer à développer les affaires dans ce pays et à s'agrandir. Donc, l'espoir est réel.
Il n'y a pas trop de pression fiscale.
Ici au Congo, la fiscalité et la parafiscalité parfois étranglent les entreprises. La pression que nous avons des différents ministères, des différents services de l'État, parfois vous étrangle. Et tout ce que vous payez après n'est jamais compris dans le prix de revient des véhicules. Donc, nous pouvons dire que nous gagnons 1 000, 1 500 $ par véhicule, ce n'est pas vrai. Parce qu'après, nous avons une pression fiscale ou parafiscale très élevée qui n'a pas été intégrée dans le calcul de prix de revient, qui finalement ronge toute la marge, nous met parfois en négatif.
Si on désire vous contacter,
nos numéros de téléphone, c'est le 099-090-63-32 ou bien le 089-89-46-565 ou bien les 089-89-48-200 ou bien les 081 par email atc@atc.cd.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous, c'est le week-end prochain. Vous allez retrouver Georges Kamoudova.